Quand Jésus a appelé ses premiers disciples, il a donc commencé par des frères. On peut même dire deux paires de frères. Simon, c'est-à-dire Pierre et André, et Jacques et Jean. Les évangélistes ne sont pas tout à fait d'accord sur la chronologie, puisque l'évangile de Saint Jean dit que Jésus a appelé André en premier. André faisait partie des disciples, avec d'autres, des disciples de Jean-Baptiste. Et c'est André qui est allé chercher Pierre et qui l'a amené à Jésus avec cette phrase magnifique « Nous avons trouvé le Christ, nous avons trouvé le Messie !» Et c'est pourquoi la tradition donne à André le titre de protoclet, premier appelé par le Seigneur. Or, tout premier appelé qu'il fut, André ne faisait pas partie du petit cercle restreint, du trio de disciples d'apôtres que Jésus prend avec lui à certains moments très particuliers de l'Évangile, à la transfiguration, à la résurrection d'une enfant, de la fille de Jaïr, au moment de sa passion à Gethsémani. Ce petit trio composé des seuls Pierre, Jacques et Jean. Trois des quatre, mais pas André. Pierre, Jacques et Jean, les quatre, en même temps, dans l'Évangile, nous venons d'entendre, et ensuite, dans le reste de l'Évangile, André mis un peu à part. Comment est-ce qu'il l'a vécu? Comment est-ce que André, qui a été appelé en premier, qui a présenté Pierre à Jésus, comment est-ce qu'il a pu vivre ce choix de Jésus de lui préférer Pierre, de choisir Pierre pour être le premier des apôtres? Et le fait de devoir lui, André, laisser la première place à son frère. L'Évangile n'en dit rien. Mais par une sorte d'effet papillon. Vous connaissez peut-être cette expression, effet papillon. C'était le titre d'une conférence qui avait marqué en 1972. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? Et on appelle cela l'effet papillon, lorsqu'il y a un contre-coup, toute la théorie du chaos. Eh bien, l'explosion a eu lieu 10 siècles plus tard, en 1054. C'est le grand schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, entre ceux qui se réclament d'entrée, c'est-à-dire du siège de Constantinople, et puis, ce qu'on appelle pour nous les orthodoxes, et les latins que nous sommes, qui affirmons la primauté de Pierre et du siège de Rome. Le 16 juillet 1054, très exactement, et cette date du 16 juillet a été exorcisée ensuite, puisqu'elle est pour nous aujourd'hui la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Mais ce grand schisme est en parfaite contradiction avec la deuxième lecture que nous avons entendue. Frères, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Chacun de vous prend parti en disant, moi j'appartiens à Paul, j'appartiens à Pierre, on pourrait dire j'appartiens à André, le Christ. Est-il donc divisé? Peut-il être seulement divisé? Et dans la lettre aux Philippiens, saint Paul est encore plus clair. Recherchez l'unité. Recherchez l'unité. Et ça prend du temps, puisqu'il a fallu 10 autres siècles, pratiquement un autre millénaire, avant que le successeur de Pierre, le pape Paul VI, l'évêque de Rome, et le successeur d'André, Athénagoras, le patriarche de Constantinople, se rencontrent enfin et s'embrassent. En 1964, il n'y a pas longtemps, 1964, à Jérusalem, le jour de l'Épiphanie. Et Athénagoras a offert à Paul VI une icône qui représente Pierre et André, les deux frères, Pierre et André, qui s'embrassent. Et c'est le symbole pour nous de la marche vers l'unité de toutes les églises. Paul VI ensuite a fait restituer les reliques d'André et Martyr, de saint André, à l'évêque de Patras. Patras, c'est en Grèce, la tradition dit que c'est là que André avait été crucifié. Mais André ne l'avait-il pas été crucifié quand Jésus lui avait préféré Pierre, son frère, crucifié moralement? Pratiquement chaque semaine, il y a au moins une personne ou deux qui vient me voir pour me parler de rivalité fraternelle. Qui m'expose, qui me dit la douleur lancinante de ne pas pouvoir s'entendre entre frères et sœurs. Et il peut y avoir chaque histoire est unique, particulière. Mais il y a des données récurrentes, chaque fois, une sorte de processus ou de mélange de frustration rentrée depuis l'enfance. Des tensions qui ont été attisées par des parcours de vie, des situations professionnelles, des études différentes, qui ont parfois été tensions durcies par des tiers, catalysées par des pièces rapportées. Et l'étincelle qui provoque l'explosion, c'est l'héritage. Mais même avant qu'il y ait explosion, mon père, je ne m'entends pas avec mon frère. Mon père, je ne m'entends pas avec ma sœur. Et ce sont rarement des débats d'idées. Mais c'est comme dans l'Église. Ce sont rarement des questions de fond. C'est pas l'intelligence qui est en cause. Au contraire, d'ailleurs, on s'entend bien mieux lorsqu'on arrive à discuter de sujets de fond. Mais qu'est-ce que c'est ? Plutôt des postures morales, des jugements à l'emporte-pièce, et avant toute chose, des paroles assassines, des horreurs de langage. Des horreurs de langage impossibles à rattraper, très difficiles à pardonner. Si nous faisions un peu plus attention, même quel que soit tout ce qui est accumulé, quelles que soient les tensions. Y avait-il eu... Est-ce qu'il y avait des tensions entre Pierre et André ? Je veux dire, l'Évangile ne dit rien. En revanche, l'Évangile dit qu'il y avait une question qui revenait sans cesse entre les disciples, de savoir qui était le plus grand. Qui était le plus grand ? Ce n'est pas la bonne façon d'approcher les choses. Ce qu'il faut plutôt se demander, c'est pourquoi est-ce que Jésus a choisi Pierre ? Pourquoi est-ce que Jésus a préféré Pierre à André et aux autres disciples ? Eh bien, il l'a choisi en raison de son plus grand amour. C'est l'unique critère, l'amour. Et on le voit à la fin de l'évangile de Saint Jean, lorsque, après Pâques, le Christ ressuscité, il y a là Pierre qui est parti à la pêche, il y a la moitié des disciples qui sont présents. Et Jésus qui interroge Pierre, « Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?»« Seigneur, tu le sais, je t'aime !» Il l'a choisi en raison de son amour. Et il l'avait dit, Jésus, à propos d'un autre Simon, un pharisien qui le regarde de travers à cause d'une femme pécheresse. Il lui dit, « Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés ?» parce qu'elle a montré beaucoup d'amour, mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Mes amis, il faut rechercher l'unité, là où on est, pas seulement dans l'Église, dans nos familles, dans nos communautés, l'unité. Et Saint Paul, au début de ce deuxième chapitre de la lettre aux Philippiens, dit comment faire dans le Christ. Il dit, quand on se réconforte les uns les autres, quand on se soutient, quand on s'encourage avec amour, quand on est en communion dans l'esprit, quand on a de la tendresse et de la compassion. C'est la clé de l'unité, quand on a de la tendresse et de la compassion. Ce sont les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. C'est ce que nous devons d'abord accueillir, chacun de nous, de sa part. Laissons-le nous réconforter, nous encourager, nous faire entrer en communion dans l'esprit. Accueillons et aimons sa tendresse et sa compassion. Vous vous souvenez, juste le dimanche avant Noël, il y avait en première lecture un dialogue entre le prophète Isaïe et le roi Akaz. Le prophète Isaïe disait au roi Akaz, demande un signe, et puis le roi Akaz était trop compliqué. Isaïe disait... Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Les disputes sont fatigantes. Les disputes sont très fatigantes. Mes amis, essayons de faire la paix dans le Christ. Recherchons l'unité.